Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de la dernière émission de la saison d'Alter Echo, Olivier au micro. Maintenant, ce n'est plus très important, mais Alter Echo, c'est quand même tous les mercredis à 22h, et donc pas la semaine prochaine ni celle d'après. C'est également rediffusé tous les vendredis à 14h. Il y a également un site internet à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Comme l'actualité ne cesse jamais d'évoluer, parfois assez vite, nous allons revenir aujourd'hui sur quelques-uns des sujets de la semaine dernière. Tout d'abord, les péripéties du journal du samedi. Non seulement le dossier a pas mal évolué depuis la semaine dernière, mais en plus j'ai eu l'occasion d'en parler à Richard Miller, le ministre de la Culture et de l'Audiovisuel de la Communauté française, qui nous dira clairement ce qu'il en pense. Nous allons aussi parler des suites des violences à Göteborg, puisque le même scénario s'est reproduit à Barcelone. Nous verrons de près comment l'info se déforme au fil de son cheminement dans les rouages de la presse. Et enfin, pour terminer la saison en beauté, une interview de Serge Halimi du Monde Diplomatique, qui a quelques idées fort intéressantes sur la presse en général, et en particulier sur son attitude pendant la guerre du Kosovo. Mais tout de suite donc, la saga du journal du samedi. La semaine dernière, Laurent Arnautz, l'un de ses fondateurs, avait longuement expliqué dans cette émission tout le cheminement, ou plutôt le chemin de croix, du dossier de son journal à travers les instances de la communauté française. Le journal du samedi demandait en effet de pouvoir bénéficier de 15 millions de francs au titre de l'aide à la presse, qui est destinée à garantir le pluralisme de la presse écrite et à garantir la survie de l'écrit face à l'audiovisuel qui rafle une bonne partie de la manne publicitaire. L'octroi de ce montant de 15 millions, qui avait été maintes fois promis au journal du samedi, était à chaque fois assorti d'une nouvelle condition pour être finalement refusé tout net au bout du compte, sans aucune explication. Pourtant, le temps pressait, puisque le tribunal du commerce menaçait à tout instant de prononcer la faillite du journal du samedi si la dernière condition, à savoir l'aide à la presse, promise par le ministre de l'Audiovisuel Richard Miller, n'était pas remplie. À chaque fois, le gouvernement de la communauté française remettait sa décision d'une semaine, selon Laurent Arnautz, en espérant que le tribunal prononce la faillite et le débarrasse de cet épineux problème. Pour les fondateurs du JDS, la mauvaise foi du gouvernement est tellement manifeste qu'ils parlent sans hésiter de censure politique. Mais à chaque fois, le tribunal renvoyait la balle au gouvernement en postposant le prononcé de cette faillite. Cette semaine, le scénario s'est répété une fois de plus. Laurent Arnautz et Michel Bouffioux avaient intenté la semaine dernière un recours en extrême urgence devant le Conseil d'État pour faire suspendre le refus de la communauté française et faire constater l'illégalité de cette décision de refus d'octroyer l'aide à la presse. Et le Conseil d'État a tranché de façon assez ambiguë, il faut dire. Pour le Conseil d'État, les trois motifs invoqués par Richard Miller pour refuser l'aide à la presse ne sont pas valables et la décision de refus est dès lors illégale. Par contre, le Conseil d'État n'a pas suspendu l'arrêté de refus du gouvernement pour des motifs techniques, selon Laurent Arnautz. De toute façon, l'arrêté du Conseil d'État date de vendredi et la nouvelle audience devant le tribunal de commerce pour prononcer la faillite était fixée à lundi. Le Conseil d'État a donc jugé que la faillite était inéluctable et qu'il n'y avait plus assez de temps pour que le journal du samedi bénéficie d'une nouvelle décision du gouvernement de la communauté française. Lundi, au tribunal de commerce, coup de théâtre, le tribunal prend acte de l'arrêté du Conseil d'État et décide de repousser un éventuel prononcé de la faillite au 10 juillet prochain. Le tribunal constate d'une part le caractère manifestement illégal du refus d'octroyer l'aide à la presse et d'autre part la solidité du plan de relance et décide donc de laisser le temps au journal du samedi d'obtenir une nouvelle décision de la communauté française. Une façon élégante de dire qu'il renvoie la patate chaude au monde politique une fois de plus. C'est dans ce contexte que j'ai croisé ce midi le ministre Richard Miller. Il était l'invité des Midis de l'audiovisuel, organisé par l'Association des téléspectateurs actifs, et il venait expliquer notamment le projet de nouveau contrat de gestion de la RTBF. Après la séance publique, j'ai eu l'occasion de porter la conversation sur un autre sujet, sur lequel le ministre ne s'était pas encore exprimé jusqu'à présent. Monsieur Miller, vous êtes venu aujourd'hui expliquer un peu votre politique et rendre compte de votre boulot, vous soumettre aux questions des usagers, des téléspectateurs, des citoyens. Vous trouvez que ça fait partie de votre boulot de ministre?
Oui, vraiment ça. D'ailleurs, je suis un des seuls à avoir, après 6 mois d'exercice de mon mandat, organisé une conférence de presse pour expliquer ce que j'ai fait devant les 6 mois qui viennent d'être passés. Et j'ai annoncé que je le ferai tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, je rendrai des comptes de ce que je fais dans les différents secteurs. C'est tout à fait normal de venir rencontrer les usagers, les consommateurs de ce dont j'ai la charge, que ce soit dans le domaine du théâtre, puisque j'ai organisé ces fameuses assises qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ici, c'est une association de téléspectateurs actifs. C'est tout à fait normal de venir à leur rencontre.
Parce qu'il y a un autre sujet qui interpelle beaucoup, mais sur lequel vous restez un petit peu muet, c'est l'évolution du journal du samedi. Le Conseil d'État vous a finalement désavoué sans vous désavouer, en tout cas a réfuté tous vos arguments et a qualifié votre décision d'illégale. Et maintenant, le tribunal du commerce vous renvoie finalement la décision en reportant la faillite de 2 semaines. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 2 semaines?
Oui, non, ça c'est ce que les gens du journal du samedi ont publié comme communiqué. Le fait de dire que les arguments avaient été désavoués par le Conseil d'État. Nous avons une autre lecture de l'avis du Conseil d'État qui va tout à fait dans l'autre sens. Alors maintenant, par rapport au journal du samedi, nous considérons donc qu'il n'était pas possible de leur octroyer une aide à la presse qui est par définition accordée à un quotidien qui paraît, qui est publié, qui a son public, qui a ses lecteurs, et que ce ne sont pas des aides qui sont là pour compenser une faillite.
Oui, mais vous dites ça maintenant, mais dans un premier temps, vous lui aviez accordé, vous aviez posé toujours de nouvelles conditions, et au moment où toutes les conditions étaient remplies, sur base du même dossier, vous avez tout à coup refusé l'aide à la presse.
Ah non, vous êtes vraiment mal informé. Je vois que vous êtes, par contre,
Je vous écoute.
je pense, je constate par contre que vous avez reçu de très bons échos de la part des gens du journal du
Mais eux,
samedi.
ils communiquent, c'est ça le problème.
Ah oui, parce que eux, ils essayent de justifier leur position. Nous n'avons pas communiqué sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais évidemment agréable de voir disparaître un magazine francophone. Il n'y a pas, au niveau de la communauté française, de moyens de payer les dettes du passé. C'est une aide à la presse pour des journaux qui sont publiés et qui paraissent de façon constante. C'est le cas pour la Libre Belgique, pour Le Soir, etc., pour les autres journaux. Donc, il y avait une autre possibilité, c'était de ressortir quelques millions des montants accordés aux revues littéraires. Le journal du samedi n'est pas une revue littéraire et en plus, c'était vraiment prendre de l'argent et le mettre directement à fonds perdu.
Il y a quand même un plan business que vous aviez accepté
Oh,
vous-même.
évident, c'est ça que je voulais vous dire. Lorsqu'on vous dit que j'avais accepté, ce n'est pas vrai. J'ai accepté de porter le point devant le gouvernement. Le point a été posé devant le gouvernement et le gouvernement, unanime, a demandé le retrait du point en considérant qu'il ne fallait pas aider. Et
Pourtant, il y
donc,
avait un soutien de la part d'Écolo et du PS que vous aviez demandé, qui était là.
Non, 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 il ne faut pas tout mêler. Je veux bien comprendre que vous ayez reçu beaucoup d'informations, mais vous les mêlez. Un, il y a eu une demande. D'abord, le gouvernement a accordé une aide exceptionnelle, c'est bien précisé, une aide exceptionnelle de 2,5 millions au journal du samedi, en disant qu'il n'y en aurait pas d'autres. Le journal du samedi est venu me trouver en demandant est-ce qu'il n'est pas possible quand même de revenir sur cette décision. Je me suis engagé à présenter le point au gouvernement, puisqu'il ne m'appartenait pas seul de le faire. Je l'ai fait, j'ai présenté le point. Le gouvernement a décidé le retrait du point. Et donc, il s'en est tenu à sa première décision. Il y a eu une aide exceptionnelle, il n'y en aura pas deux. Ça, c'était la décision. Donc, entre le moment où il y a eu cette première demande du journal du samedi et le moment où j'ai décidé que c'était qu'il n'y avait pas d'autre aide qui viendrait, il y a un élément extrêmement important qui est intervenu, c'est cette réunion du gouvernement. Donc on ne peut pas dire que j'ai changé d'avis. J'ai dit que je poserais le point était posé, le gouvernement a dit non, donc c'est non. Alors les fameuses lettres dont vous parlez, les deux courriers venant d'Écolo et du PS, disaient clairement que si le point revenait, il ne s'y opposerait pas. Le point est arrivé au gouvernement, la décision a été collégiale, c'est une décision complète qui a été prise par la majorité, c'est-à-dire par le PRL, FDF, MCC, mais aussi par le PS et aussi par Écolo.
Pourtant, on vous sent un peu désavoué parce que tous les observateurs s'accordent à dire que le Conseil d'État n'a pas pleinement satisfait, certains disent pour des raisons techniques, les exigences du journal du samedi, mais tout le monde s'accorde à dire que les arguments étaient quand même fortement en votre défaveur. Et aussi, on se demande pourquoi, si tout était si clair, pourquoi le tribunal du commerce n'a pas prononcé la faillite et a donné un nouveau délai de 2 semaines, je cite, pour permettre à la communauté française de prendre une nouvelle décision vous allez la prendre?
Mais la décision, elle a déjà été prise déjà 3 fois. C'est non, on ne prendra pas des millions. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on prenne de l'argent de la communauté française et que l'on rembourse les dettes du journal du samedi?
Non, il y a un business plan quand même qui est là,
Ah
et de
non,
toute façon,
non.
il y a un pactole qui s'est libéré grâce à la disparition du matin. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Oui, donc le calcul eh bien, est clair. Certains estiment que l'argent de la communauté française doit servir à payer les dettes du journal du samedi et alors lui permettre de sortir avec une aide récurrente demandée de 15 millions par an. La communauté française n'a pas les moyens de le faire et aucun critère ne permet de le faire. Donc la décision, elle a déjà été prise. C'est non, ça a été non et ça sera encore non. Il n'est pas question au moment où tous les secteurs de la communauté française, que ce soit l'enseignement, la culture, le théâtre, le cinéma, etc., ont des difficultés, que l'on prenne de l'argent et que tout simplement on jette par la fenêtre.
Dans ce cas, vous savez ce qui va se passer. Bouffio et Ernaux l'ont suffisamment dit. Ils vont contester la légalité des aides à la presse devant la Commission européenne. Apparemment, eux estiment en tout cas qu'ils ont toutes les chances de gagner. Ils prennent Maître Misson qui a obtenu l'arrêt Bosman, etc. Visiblement, les aides à la presse n'ont pas été notifiées à la Commission et sont donc presque par définition illégales. Est-ce que vous ne mettez pas le doigt dans un engrenage dangereux?
Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait céder à une forme de chantage que vous relayez. Hein. Je vous ferai marquer au passage que vous le relayez. Vous dites, vous mettez le doigt dans un engrenage dangereux. Je
Je
mets
vous
pas
pose la
le
question.
doigt dans un engrenage. Non, 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 non. Vous relayez une forme de chantage. Je ne mets pas le doigt dans un engrenage dangereux. Il y a un avis qui a été rendu par le Conseil d'État. Nous en avons une autre lecture que celle qui est rendue publique par le journal du samedi. Je constate que les responsables du journal du samedi, lorsqu'ils demandent à émarger aux aides, estiment que le système d'aide est bon. À partir du moment où la réponse est non, ils estiment que le système n'est plus bon. Donc il faut aussi savoir dans quelle pièce on joue, hein.
Ben c'est un peu à partir du moment où ils se sentent discriminés qu'ils contestent le principe d'égalité. Mais
Mais non,
quelle que soit la question.
il n'y a pas de système d'égalité. Le système est un système d'aide à des journaux qui existent. Ici, il y a une demande pour résorber les dettes du passé.
Mais quelles que soient les considérations, est-ce que ça vous fait pas un peu peur, ce recours devant la Commission européenne?
Mais non, on se défendra, la communauté française se défendra, elle défendra son système d'aide. C'est un système d'aide qui a été appliqué longtemps avant que je n'arrive. Il y a des aides qui ont été octroyées à des journaux, ce sont des dizaines de millions qui ont permis à nos journaux de maintenir leurs lecteurs. Ici, deux personnes mettent en danger un système d'aide aux autres journaux uniquement parce qu'ils estiment qu'ils sont lésés. Alors qu'en fait, ils devaient simplement. Je vous dis, ce n'est pas possible de dégager des moyens financiers pour payer des dettes du passé.
Okay. En tout cas, oui, mais selon Laurent Arnault, la Commission a déjà tapé discrètement sur les doigts de la Belgique, mais n'entreprenait pas d'action parce qu'il n'y avait jusque-là pas de partie lésée. Cette fois-ci, il y a une partie lésée. Donc, est-ce que ça risque pas très fort d'aboutir?
Mais il n'y a pas de parti lésé, puisque le journal du samedi n'entrait pas dans les critères. Donc, si effectivement on avait décidé une certaine répartition des aides, que le journal de samedi pouvait émarger à ces aides et qu'on ne lui donne pas les aides, là il y a une partie lésée. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, la seule façon de pouvoir sortir de l'argent, c'est d'aller chercher dans d'autres secteurs.
Pour terminer sur le principe, est-ce que justement l'aide à la presse ne sert pas à garantir le pluralisme? Et on sait ce qu'il en est de la presse francophone actuelle, aussi bien hebdomadaire que quotidienne. Est-ce que ce n'était pas l'occasion de rêver, de montrer une volonté forte du gouvernement de la communauté française de préserver une pluralité d'opinion?
Oui, mais donc et je comprends encore une fois dans quel sens vous inscrivez cette pluralité d'opinion, puisque toutes vos questions vont dans le même sens. Mais cela étant, non, l'aide à la presse est destinée à garantir la survie des quotidiens en communauté française. C'est
Elle est
pas
versée aussi à des hebdos.
Ah non,
La
justement.
Libre Hebdo et indirectement le Soir Magazine.
Oui, elles sont versées au titre Le Soir et La Libre. Donc c'est ainsi.
Non,
Donc
La Libre Hebdo, c'est directement.
je comprends très bien que Arnaud et Bouffiou défendent leur point de vue. La communauté française défendra le sien.
Après cette interview, Richard Miller a critiqué encore un peu plus mes méthodes journalistiques. En substance, il estime s'être fait piéger puisque je ne l'avais pas prévenu à l'avance du sujet de l'interview. Ça me rappelle certains journalistes vedettes français qui estimaient s'être fait piéger par Pierre Karl et qui lui reprochaient, je cite, Il dit qu'il va poser une question et puis il en pose une autre. À vous de juger de la valeur de cet argument. Pour conclure, signalons que l'espace d'un numéro, le journal du samedi renaîtra de ses cendres ce week-end. Pour expliquer leur point de vue, Michel Bouffioux et Laurent Arnaud sont en effet décidés de publier ce samedi un numéro spécial du journal du samedi qui se vendra au prix de 20 francs et qui exposera tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Mais méfiez-vous des méthodes journalistiques du journal du samedi, ce numéro spécial risque fort de refléter le point de vue de ses auteurs. Je vous parlais la semaine dernière des violences qui ont marqué les manifestations contre le sommet européen de Göteborg en Suède. On constatait à cette occasion que la presse relayait surtout les scènes de violence lorsqu'il y en a et que le message des manifestants passe alors complètement au second plan. Dans cette optique, on constate même que les forces de l'ordre provoquent parfois sciemment des violences, sans doute pour discréditer les manifestations. Mais avant d'élaborer ce sujet-là, j'aimerais vous signaler un petit article du soir. Cette semaine, c'est Bénédicte Vasse qui assurait la rubrique Vent du Nord, qui rend compte de ce qui s'est écrit au cours de la semaine dans la presse flamande. Je vous l'avais dit la semaine dernière, la presse francophone, qui hésite à critiquer l'Union européenne, n'a pas abondamment rendu compte de ce que les contestataires avaient à dire. Lorsqu'elle leur donnait la parole, c'était surtout pour commenter les violences. Cette semaine, en lisant la presse flamande, Bénédicte Vasse s'est rendu compte des lacunes de la presse francophone. La presse flamande est décidément très pro, écrit-elle. Le sommet européen de Göteborg a été violemment chahuté par des émeutes. Les journaux du Nord mènent donc une enquête approfondie sur les émeutiers, leur arbre généalogique, leur motivation, leur récit. Fin de citation. On a beau sentir une grosse pointe d'ironie lorsque Bénédicte Vasse parle d'arbre généalogique, le fait reste là. La presse flamande reste un cran au-dessus de la concurrence francophone en matière de curiosité et d'investigation, et le soir ne peut que se borner à le constater. Dans son article, Bénédicte Vasse cite sans s'y attarder, et par le biais du quotidien flamand de Morgen, un élément intéressant. Un membre du mouvement Résistance internationale, interrogé par de Morgen, affirme que les premiers pavés ont été jetés par des policiers en civil. En effet, comme je vous le disais la semaine dernière, de plus en plus d'éléments permettent d'affirmer que la violence est une stratégie délibérée, non pas ou pas seulement des manifestants, mais aussi des forces de l'ordre. On avait déjà vu à Prague des soi-disant anarchistes entamer le saccage des vitrines avant de se réfugier librement dans des camionnettes de police. On les avait aussi vus arrêter des casseurs. L'hypothèse de la provocation policière systématique a été confirmée une fois de plus le week-end dernier à Barcelone. Normalement, à l'heure où je vous parle, un sommet de la Banque mondiale aurait dû se terminer à Barcelone, mais devant la contestation croissante, la Banque mondiale a décidé d'annuler le sommet et d'organiser à la place une cyberconférence qui éviterait la centralisation des participants et les troubles qui accompagnent chaque sommet de la Banque mondiale. Donc, pas de sommet, mais les organisateurs du contre-sommet ne se sont pas laissés décourager pour autant. Et une grande manifestation a eu lieu dimanche dernier. J'ai trouvé sur le site Indymedia un article très intéressant à ce sujet qui analyse la façon dont les médias traitent ce genre d'événements et je me permets de vous en résumer la teneur. Pour commencer, les autorités et les médias à leur suite ont martelé pendant plusieurs semaines avant l'événement qu'il y aurait fatalement des violences. On avait déjà assisté au même scénario à Prague et à Nice notamment, et la même chose s'installe à propos du G8 qui aura lieu à Gênes en juillet. D'une part, ça fait monter l'ambiance d'un cran et ça dissuade certains manifestants potentiels, et d'autre part, ça justifie d'avance la répression policière. Pour Gênes, la campagne verse carrément dans le macabre, puisque la BBC a annoncé que les autorités italiennes ont commandé 200 sacs à cadavres en vue des violences qu'elles prédisent lors du G8. On apprend aussi qu'un espace est prévu pour faire office de morgue provisoire. Pour en revenir à Barcelone, quelques jours avant la manif, la police a décidé de retirer l'autorisation pour le parcours convenu. Le cortège devait passer devant la Bourse de Barcelone et ça allait engendrer des violences. Finalement, ce n'est que vendredi dernier que la Cour suprême de Catalogne a annulé ce revirement de la police. Apparemment, dans un premier temps, la manifestation s'est déroulée plutôt calmement. Plusieurs dizaines de milliers de personnes défilaient dans une ambiance bon enfant et ce n'est qu'en queue de cortège qu'une poignée de casseurs se faisait remarquer en cassant quelques vitrines. C'est sur la Plaça Catalunya, au centre de Barcelone, que les choses ont commencé à dégénérer. Deux petits groupes de manifestants ont commencé à s'affronter et ont rapidement provoqué une charge de la police, malgré le fait que le gros des manifestants ait tout de suite levé les bras en criant « Nous ne sommes pas violents ». Rien à faire, matraque, balles en caoutchouc, 22 arrestations et 32 blessés, et des articles de presse qui se concentrent sur la violence. Tout a donc marché comme sur des roulettes, puisque la bagarre qui a déclenché les hostilités était en fait une fausse bagarre. Les soi-disant castagneurs des deux groupes qui s'affrontaient étaient des policiers, mais ils ont si mal joué leur mise en scène que personne ne s'y est trompé, même les journalistes qui étaient sur place. Voici comment la société de presse, une des plus grandes agences de presse au monde, relatait les événements. D'après les manifestants, la police a mis en scène une bagarre aux confins de la manifestation pour y impliquer les manifestants et utiliser cette bagarre comme prétexte pour charger la foule. Des journalistes ont vu un groupe d'hommes et de femmes masqués qui se regroupaient aux confins de la manifestation dans le parc. Certains portaient des oreillettes et malgré le fait qu'ils portaient des bâtons, ils ont pu librement franchir les cordons de police, mettre leurs masques et se positionner entre la police et les manifestants. Un homme de ce groupe en a empoigné un autre et l'a poussé à terre, et d'autres membres du groupe se sont mis à s'envoyer des coups de pied et des coups. Lorsque des manifestants ont vu ce qui se passait et se sont mêlés à la bagarre, la police a chargé dans le parc. Les hommes et les femmes masquées qui participaient à l'échauffourée ont franchi le cordon de police et ont pris place dans des camionnettes. Un journaliste a demandé à l'un d'eux s'ils étaient de la police. Il a commencé par dire oui, puis non, avant de se diriger vers la camionnette en passant devant les policiers. Fin de citation. Voilà donc une situation de provocation évidente, rapportée par un média tout ce qu'il y a de traditionnel. Pourtant, malgré la clarté de l'incident et la grande portée de ses implications, malgré le scoop que ça représentait, les journaux ont eu du mal à avouer comment les choses s'étaient déroulées. El País se contente de reconnaître qu'il y avait parmi les manifestants des policiers déguisés portant matraques et menottes en plastique, mais pas un mot sur les provocations. Dans El Mundo, c'est un peu plus explicite, puisqu'on cite des témoins qui affirment que ceux qui arrêtaient les manifestants étaient les mêmes qui jetaient des pierres dans les vitrines des banques un peu avant. Mais ce petit aveu se perd dans le torrent des récits de violence. À l'étranger, par contre, pas un mot sur ces provocations. On a d'ailleurs assisté à quelques bizarreries qui en disent long sur le fonctionnement de la presse et son autocensure. Par exemple, sur le site web du Guardian, le quotidien anglais de centre-gauche, la dépêche de l'agence AP figurait telle quelle dans les dernières nouvelles dimanche soir. Mais lundi matin, toute référence aux provocations avait été gommée et l'article qui figurait sur le site et dans le journal papier se bornait à constater que la manifestation avait dégénéré et qu'il y avait eu des dégâts et des arrestations. En conclusion, il semble désormais évident qu'une stratégie internationale a été mise sur pied pour faire face aux manifestations qui ont lieu à chaque sommet. Ce sont les États eux-mêmes qui organisent la violence pour pouvoir mieux la déplorer et la condamner par la suite. En même temps, ça alimente toutes les conversations et les éditoriaux et ça évite d'aborder le fond de la contestation et de remettre en cause le désordre établi des grandes institutions. Le problème dans cette affaire, c'est que si la presse oublie malencontreusement de signaler ce qu'elle sait pourtant, on n'est pas sorti de l'auberge. Heureusement, l'Organisation mondiale du commerce a trouvé la parade pour calmer les esprits. À la fin de cette année, la conférence de l'OMC aura lieu à Qatar, un émirat pétrolier du bout du monde. Tout d'abord, peu de gens ont les moyens et encore moins l'envie de retourner au Moyen-Âge pour aller manifester, donc il y aura peu de monde. S'il y a tout de même quelques fauteurs de troubles héroïques, ils seront fouettés, voire décapités en place publique pour avoir osé atteindre à la démocratie, en espérant que le mot existe dans le vocabulaire qatari. De toute façon, si même là ça se passe mal, pas de panique, l'Antarctique est suffisamment vaste pour accueillir tous les sommets futurs et il a d'ores et déjà posé sa candidature pour accueillir la prochaine conférence mondiale sur le réchauffement de la planète.
Mag denn net so dem Speed. Fly flying into the wind now. I'm throwing at my feet something of likeness to you now. I spotted you in the sun. I called your name from a distance. I knew you were the one. I called again, I do declare. I can float in the air, and with some love from above, you must. Don't crest the weasel, and don't fall too soon. Don't steal the blood from the panther. Don't take a trip to you soon. I'm the one holding the time back from the sun as I scope the lobe. I am the one who controls the sun. And I know that things will pass as time elapses. Time elapses through the sound of you and the things we could do. Think of the master trying to fool the blast man. Check the cards at the table. Scream softly, you are able to see the sign of thyself. As throughout the ages of time, things you thought weren't going to climb the mountain, see the sun. The waves of the earth, feel the grass softly, and don't think for the one you know. I am screaming backwards in the sand.
Hey dude, he's just down here. No dude, he's just down here. Dude. Down.
Il n'y a pas qu'en matière de contestation sociale que les médias nous manipulent. Si vous êtes fidèle d'Alter Echo, vous savez certainement que la guerre du Kosovo a également été un festin pour les manipulateurs d'opinion publique. Pour le 10e anniversaire des crises dans les Balkans, le cinéma Nova organise jusqu'à ce dimanche une semaine à thème sous le titre « Ah que la guerre est jolie ». De nombreux films inédits ou rarement vus sont projetés et certains sont suivis d'un exposé. Jeudi dernier, le Nova projetait un documentaire de Canal+ sur la stratégie médiatique de l'OTAN et de son communicateur en chef, l'onctueux Jemichi. Après le reportage, la parole était aux invités du jour. Il y avait l'historienne Anne Morelli, qui a écrit un petit livre intitulé « Principes élémentaires de propagande de guerre », dont je vous avais longuement parlé lorsqu'il est sorti. Anne Morelli était là pour en parler et bien sûr pour montrer en quoi ces principes universels avaient été concrètement appliqués lors de la guerre du Kosovo. Signalons à ce propos que pour une fois, certains médias en ont parlé. Alors que la soirée battait son plein, le dernier journal télévisé de la RTBF a consacré un long reportage à la semaine organisée par le Cinéma Nova avec une interview d'Anne Morelli au sujet de son bouquin. C'est suffisamment rare pour être signalé. Le seul bémol, c'est que ce sujet n'est passé que dans le dernier JT, sans doute qu'on ne lui avait pas trouvé de place à 19h30. En début de semaine, c'est Le Soir qui consacrait un petit article au livre d'Anne Morelli, dont la sortie date déjà du mois de mars, mais ne boudons pas notre plaisir. Dans l'article, Frédéric Soumois résume la teneur du livre pour se poser ensuite beaucoup de questions, notamment, est-ce que l'emploi stratégique d'une vraie information a vraiment le même poids moral qu'une fausse information créée de toutes pièces à cette fin? Mauvaise question, puisqu'il est suffisamment démontré que dans toute guerre et des deux côtés, la vérité est la première victime du conflit. Comme pour illustrer sa question, Frédéric Soumois semble s'étonner de lire sous la plume d'Anne Morelli que la propagande de l'OTAN en ex-Yougoslavie ne vaudrait pas plus lourd que les images diffusées par les services d'information de Milosevic. Évoquant une citation d'Anne Morelli selon laquelle l'information en temps de guerre est verrouillée par un monopole de fait et qu'il ne reste aucune place pour le contre-discours, Frédéric Soumois se rebiffe. Selon nous, ce propos occulte la réalité du travail de la presse sur le terrain. Selon le titre de l'article, Anne Morelli se fait avec son livre « L'avocate du diable ». Juste pour illustrer et réfuter, voici une anecdote que racontait Anne Morelli au Nova jeudi soir au sujet du travail de terrain justement. Alors qu'elle se trouvait en Serbie, les avions de l'OTAN venaient de bombarder un hôpital. Accourue sur place, Anne Morelli constate la présence des caméras de CNN. S'étonnant de ne pas trouver les envoyés spéciaux de la RTBF, elle les appelle ensuite à leur hôtel pour leur dire d'aller filmer sur place. « Pas de problème », lui a-t-on répondu, « on a déjà les images de CNN ». A noter que CNN a relayé les accusations de l'OTAN selon lesquelles cet hôpital cachait en fait des chars serbes qui avaient subitement disparu, si seulement on prenait la peine d'aller voir sur place. Voilà pour le travail de terrain. Dernier détail qui tue, la journaliste vedette de CNN qui a couvert une bonne partie des crises yougoslaves, Christiane Amanpour, est l'épouse de James Rubin, le chef du département de communication de Bill Clinton, l'homme qui est venu au secours de Jim Ishii lorsque la communication de l'OTAN menaçait de dérailler en raison des nombreuses bavures. Au téléphone, ça devait donner des conversations du genre « Ah oui chérie, n'oublie pas de leur dire demain que l'hôpital qu'on a bombardé cachait en fait des chars. Bonne nuit chérie !» Pour en revenir à la soirée du Nova, jeudi soir, le second invité était Serge Halimi, du Monde diplomatique, auteur avec Dominique Vidal de « L'opinion, ça se travaille », un petit ouvrage qui retrace minutieusement les manipulations et les distorsions sémantiques que nous ont infligées les médias lors de la guerre du Kosovo. Il avait écrit auparavant « Les nouveaux chiens de garde » sur les nombreuses connivences entre les journalistes vedettes qui monopolisent le débat dans les médias français. Bref, c'est l'homme idéal pour terminer la saison en beauté avec une interview sur la guerre, les médias, les médiateurs et son petit livre.
Pour commencer, en fait, je vais vous soumettre au pire des travers des médias qu'on critique en général. Vous avez écrit un bouquin avec Dominique Vidal qui s'appelle « L'opinion, ça se travaille ». Est-ce que vous pourriez me le résumer en 2 minutes?
C'est 2 minutes uniquement. Hein.
Oh,
oui, bon. L'objectif, ça a été de revenir sur un événement politique qui avait été très médiatisé et qui a une certaine importance puisqu'il s'agissait d'une guerre à laquelle nos pays avaient été partie prenante. Et en revenant sur cet événement, d'essayer de voir comment l'information avait opéré, au service de qui, quels étaient les éléments de la réalité qu'elle avait occultée, quels étaient les éléments de la réalité qu'elle avait exagérée. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'avec la guerre du Kosovo, nous avions vécu l'une des grandes opérations de désinformation de ce siècle.
Oui, effectivement, c'était en tout cas pas la première. Vous l'avez d'ailleurs souligné durant votre exposé ce soir. Au moment de la guerre du Golfe, il y avait déjà eu le choc de Timișoara 200 avant, mais au moment de la guerre du Golfe, l'information était celle qu'on a vue. Mais après, il y a eu une prise de conscience, il y a eu une grande autocritique, disons, qui suivait peut-être une critique extérieure de la part des médias. Et ils se sont dit « plus jamais ça, la prochaine fois on fera gaffe », etc. Ce dont on s'est aperçu, et notamment grâce à votre livre « Au Kosovo », il s'est passé exactement la même chose, voire pire, sauf que cette fois-ci, c'était une auto-célébration, comme vous l'avez dit, il disait, tout en manipulant l'information, consciemment ou inconsciemment, il disait « on fait ça d'une manière formidable, l'information est parfaite ». Est-ce que vous pensez que là, pour toutes les prochaines guerres, on est parti sur cette lancée-là, c'est-à-dire il y a eu une fois la critique, elle a été évacuée, à partir de maintenant, la critique n'est plus possible ?
La vérité, c'est que vous ne pouvez pas trop jouer à désinformer et puis après à reconnaître après que vous avez désinformé, votre crédit risque d'être très sévèrement érodé. Or, la plupart des journalistes dominants savent depuis le milieu des années 90 que l'opinion ne fait plus confiance aux journalistes spontanément. Et donc les critiques qui étaient encore légitimes dans la période enchantée des rapports entre l'opinion et les journalistes, qui en quelque sorte validaient les journalistes, leur donnaient une espèce d'aura de courage supplémentaire, ne sont plus recevables parce qu'elles deviennent beaucoup trop risquées à partir du milieu des années 90, où on se dit que ce serait peut-être l'erreur de trop, l'erreur dont on ne réchappe pas. Donc il est très très important, au moment où vous désinformez, dans la mesure où vous savez très très bien que les gens qui sont informés soupçonnent les journalistes de mal faire leur travail, il est très important de leur dire « on vous donne l'information, mais en plus on va vous expliquer que notre travail est exemplaire. On sait que vous doutez de ce qu'on fait, donc on va en permanence essayer de vous convaincre, pas de manière implicite, mais de manière explicite, que notre travail est extraordinaire, en nous interrogeant les uns les autres pour commenter l'excellence de notre travail. » Et évidemment, comme ça s'est passé au moment de la guerre du Kosovo, c'est le type de démarche à partir de laquelle on imagine mal une marche arrière. Une fois que vous avez dit « notre information est exemplaire », 3 mois plus tard, vous ne pouvez pas dire « ah, au fait, là, comme au moment de Timisoara, comme au moment de la guerre du Golfe, etc., on a été mauvais ». D'autant que ceux qui ont vanté l'excellence de leurs informations, Edoui Plenel dans Le Monde, Laurent Geoffrin dans Le Nouvel Observateur, le Claude Sérillon dans France 2, Patrick Poivre d'Arvor dans TF1, sont des responsables de l'information en France. Je ne sais pas si ça s'est passé de la même manière en Belgique, mais ce sont des responsables, ce sont des chefs de l'information, qui se sont donc discrédités en vantant la qualité d'un produit vérolé. À partir du moment où ce discrédit est né ou pourrait naître, le meilleur moyen de se prémunir contre le risque qui s'étende, c'est d'étouffer l'information sur la réalité de la désinformation. Donc on parle d'autre chose. Et après tout, avec les médias, on peut toujours changer de sujet d'actualité. Vous parlez de la guerre du Kosovo, là maintenant on n'en parle plus, la Macédoine n'intéresse guère, et tantôt on avait Lady Diana, tantôt on a Love Story, tantôt on a ces sujets de diversion qui permettent de ne pas évoquer des thèmes qui pourraient être trop détonnants pour les journalistes.
Mais tout ça se passe à une époque où on voit de plus en plus, presque comme une mode, des médiateurs. Il y en a sur France 2, dans le monde, un peu partout. Même la Belgique commence à être touchée. Il y en a un au soir, il y en aura bientôt un à l'RTBF. Est-ce qu'il faut dire pourtant ou est-ce qu'il faut dire d'ailleurs? Est-ce que cette mode des médiateurs participe de tout ça?
Cette mode des médiateurs, c'est déjà une réponse aux soupçons. On essaie de répondre aux soupçons des lecteurs en leur disant « Voyez, l'information fait aussi la critique de l'information. On est à la fois l'information et sa critique, et tout se passe chez nous. On contrôle en quelque sorte tous les termes du débat. On va dire « Mais on pourrait critiquer le monde. » Non, c'est pas la peine, le médiateur s'en charge. « Mais on pourrait critiquer RTBF. » Mais non, mais le médiateur s'en charge. Même chose pour France 2. Et le travail du médiateur, c'est très souvent de présenter la qualité de réflexivité des médias. On est capable de réfléchir à notre travail et de le corriger. Le médiateur entretient donc la croyance dans l'excellence du journalisme. L'excellence du journalisme est telle qu'il accepte lui-même de se remettre en cause. Mais naturellement, dans le cas de ces médiateurs, c'est une remise en cause qui est très limitée parce qu'il reste des salariés de l'entreprise qui ne peuvent pas formuler de trop grandes critiques contre l'entreprise parce que très souvent, d'ailleurs, une fois qu'ils cessent d'être médiateurs, ils retournent dans l'entreprise. Et vous imaginez bien que si vous avez critiqué de manière féroce le directeur de la publication ou le rédacteur en chef ou je ne sais quel chef de service, et que vous vous retrouvez après dans ce service, votre vie est assez difficile. Au moins aux États-Unis, lorsqu'il s'agit des médiateurs, il y a tout de même la pratique qui consiste à les faire venir de l'extérieur, et une fois que leur mandat est terminé, de leur dire « vous retournez à l'extérieur ». Donc il n'y a aucune nécessité pour le médiateur de ménager en quelque sorte ses arrières. Mais encore une fois, ce qui me paraît très important dans le phénomène du médiateur, c'est que son rôle principal, c'est d'entretenir la croyance dans l'excellence de l'information et le monopole de l'information, surtout, y compris sa critique.
Mais comment expliquer malgré tout, avec en arrière-plan, l'expérience de Timisoara de la guerre du Golfe et le fait qu'on sait quand même qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas des imbéciles malgré tout, que non seulement la contre-information ne soit pas du tout passée et la critique après coup ne soit pas du tout passée non plus, mais en plus que certaines personnes qui sont censées figurer parmi les plus progressives du monde intellectuel et médiatique, ce soit laisser prendre, disons, comme des débutants à toute cette propagande. Et je pense en particulier à Philippe Val, que j'avais eu l'occasion d'interviewer là-dessus aussi dans le cadre de cette émission. Comment expliquer que la redoutabilité, disons, de l'efficacité de cette propagande?
Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour Philippe Val, d'autant qu'on a eu une polémique publique, lui et moi, on partageait un certain nombre de positions, et il est évident que les articles qu'il a écrits au moment de la guerre du Kosovo m'ont semblé tout à fait irrecevables.
Mais donc vous aussi, vous avez du mal à le comprendre, quand même au départ, en tout cas.
Oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'il ait fait cette erreur. À vrai dire, je peux comprendre qu'il ait fait l'erreur en avril, en mai 99, parce que l'effet de propagande était tel qu'il fallait avoir la tête particulièrement froide et qu'il a parfois la tendance à vouloir moraliser tous les événements de la réalité internationale et que quand il s'agit d'une guerre, moraliser n'est peut-être pas la meilleure manière d'approcher les rapports de force et les motivations des protagonistes. Ce que je comprends beaucoup moins bien, c'est que 2 ans plus tard, il n'y ait pas eu du tout de sa part de réflexivité. Il aurait pu reconnaître, bon, on s'est trompé là-dessus, on s'est trompé là-dessus. Or, au contraire, c'est en quelque sorte le je persiste et je signe. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme pour les autres, il y a eu une espèce de soupçon sur ces informations auxquelles ils ont tous répondu en vantant l'excellence de l'information. Philippe Val, dans le bouquin qu'on a fait avec Dominique Vidal, on cite même un extrait d'un de ses éditoriaux où il dit que l'information de l'OTAN est de qualité, que cette fois-ci, il n'y a pas de manipulation. Alors, quand vous vous êtes engagé à ce point, il est très difficile de vous dégager beaucoup. Le meilleur moyen de se dégager beaucoup, c'est de parler, encore une fois, d'autre chose.
Mais comment expliquer aussi qu'avec des journalistes qui sont certainement pas tous malhonnêtes, et en particulier dans le bas des structures, disons, comment expliquer que tout le monde marche dedans, alors que certains journalistes doivent tout de même s'apercevoir, étant au milieu de tout ce qui se passe, que ce qui sort finalement de la télé ou de la radio, c'est du mensonge. Comment expliquer qu'il n'y a pas un grain de sable dans cette belle mécanique finalement?
D'abord, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'ils ne sont pas malhonnêtes. Pas du tout parce que j'ai l'intention de mesurer mes propos, mais parce que je pense que ce serait une mauvaise explication. Je pense que sincèrement, ils font le travail qu'ils estiment devoir faire. Parfois, ils souffrent quand ils mesurent que ce travail ne correspond pas à ce qu'étaient leurs aspirations lorsqu'ils sont rentrés, pour certains, dans des écoles de journalisme. Mais ils ont l'impression qu'ils font ce qu'ils doivent faire et ils le font avec la plus grande sincérité. J'ajoute que leur sincérité est absolument indispensable au système. Pour qu'ils soient de bons diffuseurs de l'idéologie dominante, il faut qu'ils le fassent avec tout leur corps, avec toute leur âme, avec toute leur confiance, avec tout leur enthousiasme. Et on n'obtiendrait pas ce corps, cette âme, cette confiance, cet enthousiasme si les journalistes n'étaient pas sincèrement convaincus qu'ils font ce qu'ils doivent faire. Alors pourquoi le font-ils? Si j'ai avancé une explication qui est que maintenant la profession est construite de telle manière qu'il n'y a aucune sanction lorsque vous vous trompez avec tous les autres et qu'il y a un risque de sanction terrible si vous vous trompez seul. Et que comme vous ne voulez pas vous tromper seul, vous n'avez pas non plus tendance à prendre le risque d'avoir raison seul. Parce que vous pourriez ne pas avoir raison et donc vous êtes trompé seul. Donc vous vous trompez avec tous les autres. Lorsque tout le monde se trompe, si personne après ne révèle la tromperie collective, eh bien l'erreur collective passera beaucoup plus facilement. Et je crois que ça, c'est un phénomène qui joue. L'autre phénomène qui joue, c'est ce qu'évoque Marc Fesneau lorsqu'il analyse le traitement médiatique de la guerre du Kosovo, c'est qu'il y a de moins en moins de spécialistes dans les rédactions des conflits. Or, la guerre du Kosovo, ça ne se traite pas comme une question morale. En montrant des femmes et des enfants qui pleurent et en disant, regardez les femmes et les enfants qui pleurent, c'est triste. Évidemment, c'est triste. Et ça, c'est le type de traitement auquel on a été soumis, qui n'exige aucune connaissance du conflit, qui n'exige même pas de parler la langue. Il suffit de venir avec un interprète qui vous traduit des récits d'épouvante. Or, comme dans les rédactions, la plupart des spécialistes ont disparu, on estime que ça coûte trop cher, que ça n'intéresse pas, la politique internationale est très largement sacrifiée. Vous n'avez qu'à voir, par exemple, les Unes du Monde, qui presque maintenant systématiquement privilégient des sujets de politique intérieure. Lorsque vous n'avez pas de spécialiste, le meilleur moyen que vous avez de traiter d'un conflit international, c'est de le présenter comme une fable morale, avec le bon et avec les méchants. Et ça, c'est de plus en plus le mode de traitement habituel du journalisme. Lorsque vous traitez de la guerre du Kosovo, c'est vrai que la situation des Balkans est épouvantablement compliquée. Elle exigerait une connaissance historique qui réclamerait des années de travail. Eh bien, lorsque vous débarquez du jour au lendemain au Kosovo, pays que vous n'avez pas traité pendant des années parce que vous estimiez que ça n'intéressait personne, et que vous estimez que maintenant il intéresse tout le monde dès lors que votre armée va au Kosovo, quel est le moyen que vous avez de faire un traitement qui ne soit pas un traitement uniquement émotif, uniquement émotionnel, en se référant aux informations officielles, qui sont d'ailleurs calibrées pour être absorbées par les journalistes et répercutées par eux?
Pour conclure sur cet aspect-là des choses, moi, ce qui m'a surtout frappé dans votre livre, mais encore ce soir, j'ai appris des choses que je ne savais pas, c'est que, disons, les aveux de la manipulation sont totalement disponibles. Il suffit de regarder le titre de votre bouquin, qui est L'opinion, ça se travaille. Ça vient d'un général américain, me semble-t-il, un général de l'OTAN. Il y a certaines citations de Jamie Shea qui sont assez frappantes aussi. Et il y a même le spin doctor en chef, donc comment dire, le marketeur, le publicitaire en chef de la Maison Blanche, James Rubin, qui avouait dans son livre effectivement que c'était une question de bataille des médias et pas beaucoup plus que ça. Mais c'est quand même incroyable, non, que les aveux soient là et que tout le monde médiatique décide de n'y voir que du feu.
Alors là, il faut peut-être que je relativise ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que quand on dit tout le monde médiatique, il s'agit du cas français, peut-être du cas belge. Mais il faut reconnaître qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, il y a eu un certain nombre d'articles qui ont admis des erreurs commises par leurs propres journaux, par les propres journaux des journalistes qui révélaient ces erreurs. Ainsi, par exemple, l'histoire des charniers, etc., qui avaient été brûlés à Trepka. Bon, ça avait été une affaire dont on avait beaucoup parlé. Et c'est le Wall Street Journal lui-même qui, dans un article de une, a rendu compte d'une enquête qu'il avait accomplie à Trepka quelques mois plus tard, révélant que toutes ces histoires-là étaient des bobards. Vous avez donc des journalistes qui l'ont fait. Il s'est passé la même chose pour El País. Il s'est passé la même chose pour des journaux australiens. Il s'est passé la même chose pour Newsweek, qui a révélé que la précision des frappes de l'OTAN n'était pas aussi extraordinaire qu'on le disait, et que la plupart des bombes avaient atteint d'autres objectifs que ceux qu'elles visaient. Tout ça, on l'a lu quand même dans certains titres de la presse occidentale, à tel point d'ailleurs que notre livre est très largement nourri par ces révélations qui ont été publiées, par El País, qui par le Wall Street Journal, qui par Newsweek et qui par d'autres quotidiens de ce type. Le problème de la France, c'est que ces informations-là, d'une part, n'ont pas été révélées par des journalistes français, à l'exception dans certains cas du Figaro, et d'autre part que lorsqu'elles ont été révélées, elles ont été très largement occultées ou présentées de telle manière qu'elles semblaient n'être que l'une des facettes d'une polémique. Alors même qu'il n'y avait plus de polémique, que la polémique était réglée, qu'on savait par exemple, qu'on sait très, très certainement que le plan fer à cheval est un faux. Bon, ce plan fer à cheval a été présenté en une du Monde comme une réalité et indiqué à l'indicatif. On disait le plan fer à cheval qui estime que, ou prévoyait que, c'est pas qui aurait prévu que. On a supprimé le conditionnel. Encore que le conditionnel est maintenant un moyen qu'utilisent les journalistes pour conditionner sans risque. C'est le conditionnel qui conditionne. Après, on explique, mais comme on a employé le conditionnel, on pouvait dire n'importe quoi. On n'a pas annoncé que l'information était réelle. Mais dans le cas du plan fer à cheval, on a employé l'indicatif. Il n'y a pas eu après d'information disant, au fait, ce plan fer à cheval n'a pas existé. Tout ça a été présenté comme une polémique. Et ça, c'est encore une fois une spécificité française qu'on n'a pas retrouvée dans le reste de la presse occidentale, en tout cas pas dans tous les autres pays, et qui me paraît particulièrement préoccupante.
Mais c'est une chose qui m'a frappé aussi dans votre discours de ce soir, c'est un peu comme on a dit souvent en France, on a la droite la plus bête du monde, c'est un peu on a la presse la plus mauvaise du monde, et c'est peut-être un peu comme ça en Belgique, mais ailleurs c'est pas tellement le cas. Moi ce que je remarque quand même, c'est qu'aux États-Unis il existe une tradition de critique des médias qui est très saine, mais qui n'est pas sans fondement, c'est qu'il y a des médias à critiquer. Toutes les théories qu'a élaborées Noam Chomsky, que vous avez citées aussi ce soir, ben, c'est pas sur du vent, c'est par rapport à une situation concrète. concrète et qui est effectivement, quand on lit des sites de critiques médias aux États-Unis, la situation est effectivement parfois dramatique. D'abord, est-ce que vous pensez vraiment que la France a la presse la plus mauvaise du monde? Et deuxièmement, j'ai oublié le deuxième mot, mais c'est pas grave.
Non, je ne dis pas qu'elle est la plus mauvaise du monde, surtout quand on pense à la presse britannique, à la diffusion extraordinaire des tabloïds et des choses de ce genre-là. Fort heureusement, nous n'en sommes pas là. Mais je pense que c'est l'une des presses qui est les moins capables de faire son autocritique. Et probablement parce que le milieu journalistique est extrêmement petit, centralisé, incestueux et en rapport très étroit avec les responsables politiques et économiques. Et un rapport non seulement étroit, mais acritique avec les responsables économiques en tout cas. Et je crois que ça, c'est une caractéristique française. D'autre part, dans le journalisme français, il y a aussi la très grande place qu'occupent les éditorialistes, ceux qui font des commentaires. Et très souvent, le correspondant n'est envoyé que pour confirmer l'intuition de l'éditorialiste ou de l'auteur du commentaire. À tel point que vous vous souvenez au moment de Timi Soara, il y avait un journaliste de Libération qui était sur place et qui disait: Mais moi, j'ai pas vu les cadavres, tu dis qu'il y en a 500 ou 1000 ou 2000, moi, j'ai rien vu de tel, donc je ne voudrais pas qu'il y ait ça dans mon article. Et c'est le rédacteur en chef qui dit: Écoute, toi, tu l'as peut-être pas vu, mais moi, j'ai vu ça à la télévision, et qui a inscrit dans l'article, sous la signature du correspondant, une information que le correspondant ne voulait pas communiquer. Ce type de rapport est plus difficilement imaginable aux États-Unis. Quant à dire que l'information américaine est parfaite, naturellement, très loin de moi cette idée. Et je veux dire, il m'est même arrivé d'écrire un certain nombre d'articles et d'analyses de la presse américaine, donc je suis tout à fait conscient de ses déficiences. Mais il y a au moins cette capacité d'informer sur l'information qu'on ne retrouve pas dans la presse française. J'en veux un exemple, par exemple, assez récent. Lorsqu'il y a une fusion industrielle qui concerne un journal, en l'occurrence le Washington Post, eh bien c'est dans le Washington Post qu'un journaliste a fait état des dangers que cette fusion faisait peser sur l'information dans son journal et qui a interrogé des journalistes qui faisaient part de leur crainte, de leur inquiétude. Vous ne trouverez jamais ça dans la presse française. Lorsque Le Monde conclut une alliance avec Hachette ou avec Vivendi, ou lorsque Libération est rachetée par Sédou puis vendue, etc., vous avez en général très peu d'articles qui interrogent des journalistes de la rédaction qui font part de leur inquiétude sur la qualité de l'information. Et ça, à mon avis, c'est une déficience assez grave qui nous oblige, nous, à être d'autant plus vigilants pour informer sur l'information que nous savons que nous serons très peu nombreux à le faire.
Pour en revenir au Kosovo et à toute la polémique qu'il y a eu autour, on a remarqué très souvent que dès qu'on, et vous le rappeliez ce soir aussi, que dès qu'on osait mettre en doute la propagande dominante, on se faisait traiter de proserbe, de suppôt de Milosevic et de plein de choses comme ça. C'est un truc qui arrive très fréquemment chez nous aussi. Par exemple, il y a eu un débat entre Anne Morelli et Paul Germain de la RTBF, et Paul Germain disait, elle a des arguments, mais je la trouve quand même un peu pro-Milosevic. Ça se vérifie plus ou moins à chaque fois. Comment éviter ce piège qui est presque un piège sémantique au fond, mais qui est systématiquement posé?
Bah, je crois que l'éviter requiert simplement de rappeler les précédents de régimes qui procédaient de cette manière, les dictatures communistes, le macartisme. Le macartisme, c'était quoi? C'était la mise en place d'une commission des activités un-américaine. Et pourquoi? C'est parce que les opposants au régime politique américain ne pouvaient être que non-américains dans la mesure où l'américanité, c'était la défense de l'ordre social existant. Bon, on sait à quoi cette logique a conduit, à pourchasser les créateurs, à en mettre certains en prison. Je ne suis pas sûr que l'urgence soit pour nous d'imiter de telles pratiques, même si elles s'accompagnent de moins de risques pour les dissidents.
Pour terminer, une question que j'ai eu l'occasion de poser à plusieurs des personnes que j'ai interviewées dans cette émission et qui s'occupent de critiques médias et de choses comme ça. Comment s'informer sans être occupé à le faire 24 heures sur 24? Comment s'informer correctement sans y passer sa vie?
Non, là, c'est une question tout à fait fondamentale. Vous la posez à la fin, mais effectivement, on ne peut pas attendre des gens à qui on parle qu'ils passent leur vie à s'informer. On ne peut pas leur dire, vous n'avez qu'à lire la presse anglaise, la presse balte, écouter la radio albanaise. Les gens ont des vies à mener, leur vie n'est pas déterminée par l'information en Yougoslavie. Et je crois que les journalistes et les dominants jouent précisément de cette disponibilité très limitée que la plupart d'entre nous ont, et qui les fait accepter assez facilement une information prédigérée qu'ils peuvent absorber en un quart d'heure, en une demi-heure, parce qu'il ne faut pas leur en vouloir, ils ont d'autres soucis, d'autres tâches à mener dans la vie, et c'est en quelque sorte notre travail de journaliste, parce que c'est notre travail de faire cette information, d'essayer de la communiquer aux gens qui nous lisent et qui nous écoutent, mais sans attendre d'eux qu'ils soient en quelque sorte des héros permanents qui vont aller chercher sur les sites internet toute l'information qui pourrait circuler dans le monde, qu'ils soient en mesure spontanément de la mettre en contexte, qu'ils connaissent tout de l'histoire, de l'économie, de la sociologie. Et il est exact que lorsque nous répondons aux gens, vous n'avez qu'à faire le travail de vous informer, c'est une réponse qui n'est pas satisfaisante, même si c'est un travail qu'on leur demande, mais on ne peut pas trop leur en demander, et on sait que pour eux, ça n'est pas forcément une priorité, qu'ils n'ont pas forcément le temps de le faire, que s'informer fatigue, et c'est encore une fois notre travail de les aider.
Oui, mais en substance, votre réponse, c'est notre travail. Le problème, c'est que dans le contexte actuel des médias dominants, c'est le travail des journalistes, mais on constate qu'ils ne le font pas. Alors, comment accéder à une information correcte qui serait prédigérée par des gens qui le font bien?
Alors d'abord, l'information, ce n'est pas uniquement les journaux, ce n'est pas uniquement la radio ou la télévision. L'information, c'est aussi l'existence sociale. Vous savez ce qui se passe dans votre pays parce que vous êtes salarié dans une entreprise, que vous pouvez être confronté à la réalité de l'exploitation. Vous n'avez pas besoin de reportages à la télévision ou à la radio pour mesurer cette réalité. Et en général, d'ailleurs, l'existence sociale procure des informations auxquelles on fait bien plus confiance que les informations officielles. Donc il faut tenir compte de cela parce que sinon on ne comprendrait pas que des mouvements sociaux qui sont présentés de la manière la plus acrimonieuse, la plus hostile par les médias, rencontre une vraie popularité dans l'opinion. C'est parce que l'information qui est communiquée par la réalité sociale a plus d'importance, plus d'impact que l'information communiquée par les canaux officiels. Et puis je crois que à terme, il est plutôt sain, il est plutôt bénéfique que les gens mettent en cause la réalité de l'information, la qualité de l'information, accueillent ça avec beaucoup de suspicion. Et que le travail des journalistes, c'est de plus en plus d'encourager le soupçon, peut-être pour faire pression sur leur rédaction, dans le sens d'une information qui serait meilleure. Mais encore une fois, comme j'ai tendance à ne pas penser que le problème est d'abord un problème moral ou un problème de compétence, mais de plus en plus un problème de structure, je crois que dans une société qu'on définit de plus en plus comme une société de l'information, on ne changera pas l'information si on ne change pas la société.
Je vous rappelle que cette émission est rediffusée vendredi à 14h, que vous pouvez également la retrouver avec toutes ses archives sur le site internet www.multimania.com/alterecho en un seul mot et avec CH. Les morceaux de musique qui étaient dans l'émission, il y avait tout d'abord Cannes avec Deadlock sur le CD Soundtrack, c'est d'ailleurs la musique du film Deadlock. Et ensuite il y avait Wind, Stallion Part 3 sur le CD Pure Guava. Comme je vous l'ai dit, c'était la dernière émission de la saison. J'ai beau ne plus être étudiant, le rythme de l'année académique me va comme un gant, et c'est donc en octobre que vous retrouverez Alter Echo, peut-être dans une formule légèrement modifiée. En attendant, vous pouvez passer l'été à visiter les archives sur le site d'Alter Echo pour potasser les émissions que vous avez ratées. Et attention, il y aura interro à la rentrée. Au revoir.